Torréfaction est un podcast Geekzone intégralement produit grâce à vos soutiens sur Patreon. Pour plus d'informations, rendez-vous sur patreon.com/geekzonefr. Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 139e épisode de Torréfaction. Torréfaction, c'est votre rendez-vous hebdomadaire tous les vendredis matin à 8h avec notre sélection de l'actu, une sélection de l'actu que je réalise comme d'habitude avec mon ami Caféine. Salut Caf.
Hello Monsieur Fasquille.
Ça va bien?
Bon écoute, il fait beau, tout va bien. Impeccable. On a plein de trucs à raconter, c'est parfait.
Tout à fait, et on va commencer avec le gaming, avec un Battle Royale dont on avait vaguement envisagé l'apparition la semaine dernière, et puis finalement, ça a été présenté quelques heures après l'enregistrement.
C'est ça, c'est notre petit problème à nous, toi tu l'as
aléas du différé.
Voilà, avec les clairvoyants, généralement, quand vous enregistrez un podcast, il y a une annonce qui est faite le lendemain ou le soir même.
Un grand classique.
Nous, voilà, nous c'est pareil. Alors, on savait la semaine dernière que ça serait présenté, donc c'est la différence. Mais bon, depuis, on a pu y jouer, comme vous d'ailleurs, en certainement, si vous aimez les Battle Royale, car tout est en open access, open beta, bliblablu. Donc là, maintenant, en fait, il était extrêmement simple d'avoir une clé, en fait, parce que c'est soi-disant une bêta fermée, mais il suffisait de regarder un stream pour avoir une clé, et croyez-moi, elle tombait, mais à foison. Donc c'était vraiment pas très compliqué. Il suffit de linker son compte Twitch avec son compte Ubisoft. Et puis, vous avez ça qui arrive généralement assez facilement. Donc le jeu, de toute façon, est toujours prévu pour ouvrir le 12 juillet prochain, donc de toute façon, si vous n'avez pas envie de vous embêter avec ça, pas la peine de vous prendre la tête. Mais alors, qu'est-ce qu'on en pense?
C'est pas terrible.
Voilà. C'est ça que les gens, ils veulent que la question soit répondue, tu vois? C'est ça la vraie question. Alors, j'ai streamé une partie, ou deux d'ailleurs, je ne sais plus, la semaine dernière, donc jeudi soir ou vendredi, je ne sais. Enfin, je crois que je l'ai fait peut-être même deux fois. Il y a plein de trucs qui sont intéressants, mais il y a plein de trucs qui sont pas fabuleux. Alors, globalement, on va rappeler un petit peu les bases. C'est donc un Battle Royale, c'est fait par Ubisoft Montréal. On est sur le moteur de Rainbow Six Siege, donc... qui a fait ses preuves et qui tourne très très bien, et on a 5 joueurs sur la carte, un classique. Au niveau du scénar, on est propulsé dans l'Hyperscape, qui est un simulateur de combat virtuel. Bon bref, c'est un Battle Royale avec un look un petit peu passable. C'est un mélange de d'immeubles haussmanniens hors de prix et de futurisme.
Donc c'est très bizarre.
Voilà, la défense de 2052 avec le 17e arrondissement. C'est un petit peu chelou, mais c'est rigolo. Mais ça n'a pas une personnalité folle, on va pas se mentir. Après, ça diffère un petit peu de ce qu'on connaît, donc pourquoi pas. Il y a différents looks de perso, mais ça n'influe pas du tout sur le gameplay, à part sur les phrases qui vont sortir pendant qu'on les joue. Ils ont pas de kit, c'est pas des personnages à pouvoir. On est vraiment dans du Battle Royale. Il faut ramasser ce dont vous avez besoin directement sur la carte. Alors, comme je l'expliquais pendant les streams, il y a 2 armes, 2 pouvoirs, c'est tout. Mais l'intérêt, c'est que ces pouvoirs sont assez variés, et en termes de gameplay, il y a des idées qui sont pas mauvaises. Et les 2 armes, on a tout. Hein. Ça va depuis le SMG classique jusqu'à une espèce de BMG 9000 qui balance des grosses boules qui font tout péter dans la zone où elles vont se mettre. Mais par contre, il faut recharger entre chaque coup, forcément. Faut pas déconner non plus. En termes de gameplay, du coup, il y a de quoi varier les plaisirs, c'est pas un problème. Et pour augmenter la puissance, on ne rajoute pas des petits éléments sur les armes, mais en fait on ramasse plusieurs fois les mêmes armes et les mêmes pouvoirs, ça va les fusionner, et on a jusqu'à 5 levels de puissance sur le truc. Forcément, un snipe qui a été fusionné 5 fois fait plus de dégâts qu'un snipe que vous venez de ramasser de base. Gros avantage, si vous tuez quelqu'un, vous pouvez ramasser directement ses armes fusionnées, donc ça va plus vite. La problématique, elle est pas vraiment dans le gameplay, parce qu'il y a vraiment des bonnes idées. La carte elle-même, si elle est pas ultra soignée, enfin elle est soignée, mais moi le design me parle pas, pour être très clair. Les idées de gameplay sont marrantes, parce que on n'a pas un cercle qui va se réduire comme on a dans quasiment tous les Battle Royale, mais on a un système de zones qui disparaissent. C'est pas nouveau, on a déjà eu plein de Battle Royale qui ont tenté leur chance et qui sont déjà morts, qui ont tenté des choses comme ça. Là, cette histoire de corruption numérique, elle est rigolote, parce qu'on voit la zone en fait se désagréger quand elle est en train de disparaître. Mais si vous restez dedans, en fait, vous allez prendre des dégâts comme d'habitude, mais surtout vous allez être complètement à poil, à découvert, il n'y a plus rien pour se planquer. Donc les mecs qui se sont mis à l'abri, s'ils sont en bord de zone, ils vous voient arriver, vous êtes, c'est pire qu'un lapin de garenne à l'ouverture de la chasse. Hein. Ça va pas bien se passer, les gars, vous verrez jamais la terre ferme. Donc c'est assez bien fichu de ce côté-là. L'autre truc qui change vachement par rapport au classique, c'est la verticalité que Ubisoft a voulu donner à son Battle Royale. Donc, on se bat souvent sur les toits de ces immeubles. Il y a des bumpers en bas des immeubles pour pas avoir à se taper les escaliers. On va sauter directement et on peut atterrir. Il y a des pouvoirs qui permettent de sauter et d'atterrir violemment, un peu à la Hulk, tu vois. Mais qui, en fait, permettent aussi de se projeter dans les airs et donc d'aller se placer en hauteur sans passer par ces fameux bumpers. Il y a plein de trucs un peu rigolos comme ça. Tu peux te transformer en espèce de ballon avec pas mal de points d'armure et tu rebondis un peu partout. Assez pratique pour aller faire chier les mecs ou s'échapper si jamais il y a un combat qui tourne mal. Donc ça, c'est plutôt bien vu pour un peu changer le look, la dynamique des combats qu'on a l'habitude de voir dans tous les Battle Royale. L'autre truc intéressant en termes d'idée, c'est à la fin du jeu, au lieu d'avoir tout le monde qui campe, en fait, t'as une couronne qui apparaît. Cette couronne, si un joueur la chope, eh bien, il récupère... Enfin, en 45 secondes, t'as gagné la partie tout bêtement. Donc cette couronne n'apparaît que quand il reste que quelques teams à la fin, et même si la zone est limitée avec les buildings, etc., ça pourrait camper très très vite pour éviter ce phénomène-là. C'est une excellente idée, très bien vue. Ça, je garde. Après, il y a plein de trucs qui, moi, m'ont un petit peu saoulé. Alors, il y a des fenêtres qui ont tout un look spécifique, mais tu vois pas à travers, en fait, donc j'imagine qu'au niveau du moteur, ça les arrange. Mais du coup, il faut les péter pour pouvoir voir à travers. Alors, bon, écoutez, en termes de stratégie de jeu, ça peut ouvrir des possibilités. Moi, je trouve que ça donne un look un peu chelou au jeu. Mais comme il y a beaucoup de bâtiments et qu'il y a beaucoup d'intérieurs à gérer, etc., j'imagine que s'il y a des raisons techniques qui viennent se greffer là-dessus, ça leur évite d'avoir à tout calculer tout le temps, peut-être, j'en sais rien. Mais bon, c'est pas merveilleux quand on y joue. En plus, ça rend bien claustro. On peut pas du tout regarder par l'extérieur. D'ailleurs, sans péter une fenêtre, du coup, alors vous pouvez pas camper, hein. Enfin, vous pouvez pas camper. Les mecs vont tout de suite voir qu'une fenêtre est pétée, et s'ils regardent dans votre direction, ils vous verront. Donc, c'est aussi peut-être pour éviter ce genre de truc. Donc, voilà, en termes de gameplay, il y a des choses, faut peut-être s'habituer aussi. Bon, je sais pas ce que ça donne, mais moi, j'ai pas été passionné par ça, tu vois.
Bah, moi, j'y ai pas joué, mais j'ai maté quelques streams, et ça m'a donné surtout l'impression d'être plus un deathmatch, en fait, qu'un battle royale. J'ai l'impression que tout le monde se tire dessus tout le temps, il y a des combats non-stop, ouais. Pratiquement, il n'y a pas de zone. Enfin, il n'y a pas de moment où on se pose un peu comme dans les Battle Royale d'habitude, et du coup, ça m'a donné l'impression d'être très très nerveux pour un Battle Royale, en fait.
Bah, moi, ça m'a donné mal au crâne, hein, je vais pas te le cacher. En fait, la problématique, c'est que le rythme, ils ont voulu en faire un Battle Royale hyper dynamique, mais du coup, moi, je trouve que ça en fait un Battle Royale saoulant. Ce qui me plaît, moi, dans le Battle Royale, c'est justement la gestion du rythme. T'as des fights, et ensuite, bah, tu vas aller looter, tout, mais t'as une tension, t'as un stress qui monte. Là, en fait, ça n'existe pas dans le jeu. T'as l'impression de jouer effectivement sur des M17 à Quake. C'est du fight sans arrêt. Alors, t'as des bonnes idées au niveau du gameplay, comme je le disais. J'ai pas parlé de la gestion de la mort, mais qui est bien foutu aussi, puisque du coup, tu peux, quand tu crèves, tu tombes pas au sol. Tu deviens une espèce d'avatar numérique. Tant qu'il reste des gens vivants dans ta team, ils peuvent te ressusciter sur des pads, en fait, viennent de la mort de tes ennemis, en fait.
Donc, d'accord.
Si un fight tourne mal, ou en tout cas est un peu serré, ceux qui restent vivants peuvent raise assez facilement les gens de l'équipe, de son équipe, tu vois. Donc, il y a plein de trucs qui sont bien foutus comme ça. Il y a l'intégration Twitch, j'en ai pas parlé non plus, mais en gros, ton public peut décider d'influencer sur le cours de la partie avec des options qui vont être des trucs un peu rigolos, du style modifier la gravité de la carte, etc., pendant un temps X, révéler les gens qui sont dans une certaine zone, etc. Donc, il y a quelques trucs qui sont plutôt marrants, mais je trouve que le rythme est vraiment bancal. J'aime pas du tout les sensations des armes aussi. On n'a pas vraiment, quand on se fait shooter, donc on met un petit moment vraiment à comprendre d'où ça vient et est-ce que quelqu'un nous tire dessus. T'es obligé de regarder ta barre de vie, en fait, tu vois.
Ouais.
Le feeling de choc est pas génial. Donc voilà, moi je suis pas ultra emballé, mais vous pouvez évidemment aller tester le truc. Je trouve qu'ils arrivent avec trop peu, trop tard. Je comprends ce qu'ils ont essayé de faire et franchement, il y a des bonnes idées, je le redis, mais j'ai vraiment du mal à voir le jeu accrocher un public coincé entre les Warzone, les PUBG qui sont toujours là, et puis surtout Apex qui du coup remplit très bien ce rôle de Battle Royale nerveux, mais pas forcément saoulant, en fait, parce que là vraiment ça s'arrête jamais et je suis pas certain que les gens accrochent sur le long terme, donc on verra bien. Et puis alors, il y a déjà eu des ajustements qui ont été faits sur les armes, etc., parce que depuis le début de la bêta, là, il y avait des trucs qui étaient clairement trop puissants. Donc, on verra bien, mais pour l'instant, je ne suis pas enjoué plus que ça. Mais écoutez, venez partager votre avis sur le forum, puisque de toute façon, il est disponible pour tout le monde.
Allez, on passe à Persona 4 Golden. Ça fait un petit moment que tu veux en parler, si je dis pas de bêtises.
Ouais, mais c'est un jeu qui prend 70 heures, donc forcément, si tu veux, j'ai eu un peu de mal à investir le temps nécessaire pour en parler. Et vu que c'est un jeu que je dois faire surtout depuis 1000 ans, tu vois, ça fait partie des jeux du backlog qui ne veulent pas mourir parce que tu les lances jamais, parce que tu sais que ça va être une galère pour les faire quand t'es un petit peu dissipé. Donc c'est un jeu qu'on ne présente plus parce que c'est un titre très très ancien, Persona 4 en fait. Donc c'est un RPG de chez Atlus, où ça parle beaucoup, qui vient de sortir en version PC sur Steam pour 20€. C'est un RPG qui est sorti sur PS2, hein, imagine, c'est pas, ça date pas d'hier, qui a été ensuite adapté sur Vita dans une version un petit peu améliorée, et qui maintenant a cette version Golden, qui est un peu la version Golden, tu vois, avec toutes les améliorations que tu voulais depuis le départ, qui sont disponibles, qui est vraiment dispo à un petit prix, et comme je le disais, 70€, ça fait un jeu... Pour 20€, t'en as pour ton argent. Si vous connaissez Persona 5, qui a vraiment cartonné chez nous, il faut tout de suite vous prévenir que ces 70€, vous allez les faire en japonais only ou en version anglaise, mais il n'y a pas de VF dans cette adaptation, parce qu'il ne faut pas déconner non plus. Ça permet aussi d'avoir un jeu à 20 balles, donc écoutez, c'est pas très grave. Il y a quelques petits problèmes sur l'adaptation PC, mais rien de grave. On est loin des adaptations de titres japonais catastrophiques qu'on a pu voir il y a certains temps, mais je vous conseille quand même de le faire au pad, dans la mesure où la caméra dans les donjons, etc., elle est toujours au clavier et que la gestion à la souris, elle va venir dans un patch. Je fais des air guillemets à côté de mon micro comme je fais dans ces cas-là. Donc on verra bien ce que ça donne. Le titre est vraiment intéressant. Il a un peu vieilli, même si on est dans sa meilleure version. Hein, les textures, vous attendez pas à des trucs de ouf. Mais on est vraiment sur un jeu qui, du coup, quand on connaît Persona 5, on voit d'où ça vient, comme dirait l'autre. C'est vraiment, vraiment bien fichu. Je vais pas revenir sur le scénar, parce que le scénario, si vous le connaissez pas, il faut 12 pages Wikipédia pour vous l'expliquer. En tout cas, je précise tout de suite que c'est un RPG aux antipodes des mondes ouverts et compagnie. On est vraiment sur un truc ultra linéaire, avec même une gestion du temps dans le jeu qui est hyper importante. Il va falloir parler à certains personnages. On parle beaucoup dans Persona, hein, c'est pour ça aussi que ça prend 70 heures. Du coup, il va falloir lier vos amitiés. La relation entre les personnages de l'univers est hyper importante. Et c'est pas forcément au goût de tout le monde. Et ça serait du coup passer à côté d'un système de combat qui est ultra bien fichu, mais qui oblige à se creuser un petit peu la tête, parce que tu peux pas, t'as pas de cookie cutter build, hein, tu peux pas faire un truc où tu vas rouler sur tout le monde, c'est pas possible, t'auras toujours une faiblesse quelque part, donc il faut réussir à gérer ça de manière intelligente. Donc voilà, si vous êtes assez fan, pour 20 balles, ça fait un excellent jeu pour passer l'été, si vous êtes pas du tout ambiance multi, Battle Royale et compagnie, et puis en plus, si vous avez du remote, vous pouvez y jouer sur votre télé relativement facilement, sans vous prendre la tête, donc vous pouvez investir là-dedans, ça marche très bien.
Et puis on va reparler de nos amis de Sega qui continuent de fêter leurs 60 balais. Alors après la grosse blague des Game Gear, comme on veut, miniature à 40 balles pièce, et la célèbre loupe qui va avec, et où il faut acheter les 4 modèles pour avoir la loupe, enfin bref. Donc là ils ont annoncé Astro City Mini, et ça pour le coup ça a l'air plutôt chouette en fait.
Alors c'est la surprise, hein, parce qu'on s'y attendait pas trop, on pensait qu'ils allaient vraiment faire que des trucs tout pourris pour leur anniversaire, et puis finalement non. Alors on est sur un truc assez surprenant, dans le sens où on l'a pas eu en main, mais les photos qui tournent sur le net sont quand même assez sexy. C'est une réplique d'une borne mythique qui s'appelle donc l'Astro City, qui est sortie en 1993, qui est une bestiole mythique dans les salles d'arcade. C'était une borne où on pouvait jouer assis avec 6 boutons, elle avait des boutons gros ouverts, hein, pour ceux qui se rappellent, et là ils en ont fait une réplique qui est assez grosse en fait. Alors évidemment on est loin de l'écran Toshiba de 74 cm de l'époque, les gaffe, pas déconner, mais la bestiole va coûter 100 balles. Il y aura 36 jeux intégrés à la console, on n'en connaît que 10 pour l'instant, qui seront Alien Syndrome, Alien Storm, Golden Axe The Revenge, le titre est trop long, Columns 2, Dark Edge, Puzzle et Action Tank Air, Virtua Fighter, Fantasy Zone et Altered Beast, donc des gros classiques de l'époque. Alors est-ce que ça vaudra son prix? Il faudra attendre le test. Le truc qui est rigolo, c'est que comme pour la mini Neo Geo qui était sortie version borne d'arcade, vous pouvez jouer avec le joystick, les boutons intégrés et le mini écran intégré dans cette réplique de borne d'arcade, mais vous pouvez évidemment aussi brancher des joysticks dessus et la brancher sur la télé avec un câble HDMI. Faut pas déconner non plus, ça sera quand même plus confortable, mais elle est pas si petite que ça, donc en gros, pourquoi pas, tu vois, tu peux l'installer dans un coin et, de ton bureau et puis la sortir et la mettre dessus quand t'es en train de péter un câble parce que tu réponds à un email qui te fatigue. Donc pourquoi pas, on verra ce que ça donne. En tout cas, c'est le projet le plus rigolo qu'on ait vu au niveau hardware de chez Sega Toys pour fêter l'anniversaire de la marque. On va suivre ça de très près. Alors attention, hein, pour l'instant, c'est en préco uniquement au Japon. On n'a pas la date chez nous. Ça sera, j'imagine, en fin d'année, mais pour l'instant, on ne sait pas encore. Donc, ça se trouve, ça sera début 2021. On n'a pas l'info. On vous la donnera dès qu'on l'a, en tout cas sur le forum.
Mettez vos sous de côté, donc, déjà.
C'est ça.
Une annonce pour Shadow Warrior 3. Tiens, j'ai pas vu passer ça, en revanche.
Alors, c'est un tout petit teaser. Donc, c'était juste pour vous envoyer le lien qui est évidemment disponible dans le billet qui accompagne ce podcast. Shadow Warrior, hein, je rappelle oui, pas. Ouais, voilà. Je rappelle vite fait quand même
FPS
pour les gens
brutasse,
qui
dorment. Hein.
Voilà, FPS brutal avec de l'humour bien potache, mais
c'est
rigolo.
Nous qu'aime chez les ninjas.
C'est ça. C'est fait par Flying Wild Hog et c'est Devolver qui édite. Donc évidemment, c'est dans l'esprit Devolver. C'est complètement débile et c'est pour ça que c'est rigolo parce que c'est un teaser du trailer. Il n'y a pas de gameplay en fait dans ce teaser, mais on vous montre déjà l'esprit du jeu qui va être toujours plus loin, hein, un peu dans la stupidité, l'humour un peu gras. Mais du coup, ça dure pas très longtemps. Allez regarder ça. Et si vous aimez bien les FPS qui défoulent, ça devrait remplir le contrat puisque les deux autres étaient très réussis et sont dispo en promo actuellement à peu près partout. Si vous les connaissez pas du tout et que vous aimez bien le genre, allez jeter un œil, ça peut valoir le coup.
Le premier a quand même pas mal vieilli, hein, mais le deuxième est très chouette. Mortal Shell, c'est quoi ça donc?
Alors, c'est un Soul-like, tu sais,
les jeux que je jouerai jamais.
Voilà, je précise pour les gens qui dorment sous des gros cailloux que c'est pas Soul Calibur ou des choses comme ça. On parle vraiment de Demon's Souls, on parle de tous les jeux de chez From Software qui donc sont des jeux pour se faire mal, des jeux de la douleur, hein, les derniers en date dans le genre c'était Sekiro. Mortal Shell, c'est un peu, tu vois, t'es entre l'hommage et la copie. C'est fait par un studio qui s'appelle Cold Symmetry. Mais écoute, pourquoi pas, ouais. Je vous ai linké une excellente preview l'inénarrable Pipo Mantis sur Gamekult qui résume bien la situation et le gameplay, mais pour faire rapide, on est sur un produit qui va être classique dans la façon d'être joué. C'est-à-dire que moi, en fait, j'ai eu beaucoup de mal à me détacher de ce que je connaissais déjà, parce qu'en fait, le niveau qui est dans la démo / bêta version qui est ouverte à tous, donc vous pouvez déjà l'installer et aller y jouer directement, il n'y a pas de problème. Ça va quand même vous rappeler beaucoup beaucoup de choses, hein, si vous connaissez toutes les séries de chez From Software. Ils ont joué sur des petites nouveautés au niveau du gameplay qui sont intéressantes. En fait, vous jouez une espèce de coquille, hein, d'où le titre Shell, qui est une espèce de créature qui peut prendre possession de dépouilles de guerriers. Donc ces dépouilles de guerriers, vous les investissez. Il y en a deux dans la démo, il y en aura quatre au total. Et pour chaque dépouille, en fait, vous avez un arbre de compétences qui est complètement dédié avec des statistiques propre. Donc ça va changer votre façon de jouer. En revanche, tu vois, t'as pas la sensation de faire grimper ton perso comme dans les souls et tout. Donc j'attends vraiment le jeu final pour voir un petit peu comment tu t'impliques dans l'aventure. La démo est pas très très longue. Il y a plein de petites finesses au niveau du combat. C'est-à-dire que tu peux encaisser une attaque, tu peux te faire une espèce de coquille justement qui va te permettre d'encaisser une attaque et tu peux contre-attaquer directement. Tu peux attaquer pendant que tu fais cette espèce de coquille, etc. Donc c'est l'endurcissement en version française, c'est très moche, mais il n'y a pas d'autre. Enfin voilà, c'est notre langue, on n'y peut rien, les gars. Donc tu peux gérer tes contre-attaques comme ça. Il y a plein de petites nouveautés qui sont intéressantes, mais bon, vraiment, je voulais surtout vous prévenir pour que vous alliez jeter un œil sur la démo et puis comme ça vous pourrez venir en parler sur le forum avec nous. Mais pour l'instant, je suis relativement dubitatif. Mais dans les copies entre guillemets ou dans les jeux très inspirés du travail de chez From Software, c'est un des trucs les plus intéressants que j'ai vu quand même. Techniquement, c'est plutôt joli. Donc voilà, il reste plus qu'à attendre la version complète et puis aller perdre quelques heures dedans pour se donner un vrai avis sur le projet.
Et on passe du côté des apps avec dans la série, ça pouvait pas être pire, donc on est content qu'il y ait des nouveautés. Prime Video qui rajoute des choses.
Incroyable. Alors Prime Video, hein, toujours aussi nul en termes d'interface, mais avec une offre hyper intéressante, il faut bien le dire, qui se dote enfin de la gestion des profils utilisateurs. Et oui, alors parce que les célibataires oublient mais Prime Video, donc le service vidéo de chez Amazon, ne gérait pas les profils utilisateurs dans nos beaux pays. Apparemment, c'était déjà sorti en Inde et dans d'autres pays. Chez nous, nope. Pourquoi, je ne sais pas. Prime Video, ouais, c'est bien, mystère. Ouais. Donc maintenant, vous pouvez avoir des profils pour les différents membres de la famille. Vous pouvez activer des protections enfants pour qu'ils aillent pas voir les grosses bouses de je ne sais pas qui. Ce genre de choses, mais trop violentes, point. Bon, au niveau de l'interface, c'est toujours aussi bizarre. Donc, je ne dirais rien de plus. Hein. Moi, j'ai encore des trucs hyper chelous du style. Tu veux passer le générique, ça marche avec l'application de ma Smart TV, mais ça ne marche pas avec Android TV ou même l'appli Apple TV. Bon, très bien. Pour un truc qui est censé être une application web, justement, pour éviter ce genre de problème, je te confirme que je suis toujours surpris. Je découvre toujours des nouveaux bugs, les langues qui se reset. Du coup, tu te retrouves avec une série qui démarre en VF alors qu'elle devrait être en anglais. Enfin, Prime Video, de ce côté-là, c'est un peu la loterie. Des fois, tout marche bien pendant 15 jours, t'es hyper content. Et puis après, c'est la catastrophe. Mais en tout cas, si vous êtes abonné Prime, je vous rappelle que c'est compris dans votre abonnement via Amazon. Donc du coup, en termes de rapport qualité-prix à l'année, ils sont oui. très très bien placés.
C'est assez imbattable. Et puis le catalogue est quand même nettement plus fourni que Netflix. En tout cas, ici en Belgique, j'ai déjà jeté un petit coup d'œil pour bientôt peut-être basculer. Et je te cache pas que le choix a été vite fait. on passe du côté de la culture, justement. Et tu voulais nous parler de la saison 2 de The Boys.
Et justement, sur Prime Video, quelle surprise. Une transition extraordinaire. On dirait que c'est notre métier. Alors The Boys, c'est une série où il se passe des trucs super chelous avec des super-héros qui commencent à gaver des gens normaux, parce qu'en fait ce sont des super-héros à la moralité douteuse. Si vous n'avez pas regardé la saison 1, vous pouvez aller jeter un œil. Alors je sais que Faz qui est pas fan, mais pour une fois c'est moi qui aime bien. ça change, d'habitude on est plutôt dans une dynamique inverse. Mais je suis vraiment content de voir que le trailer de la saison 2 promet d'être aussi barré que la saison 1. Moi j'avais trouvé ça sympa. Alors attention, j'ai pas trouvé, c'est pas la série du siècle non plus. Mais ça détend, il y a des bonnes idées, il y a j'aime bien le côté on roule sur les mythes du super-héros. Ça me fait bien marrer. J'attends de voir ce qu'ils vont faire dans la saison 2 qui a l'air effectivement toujours aussi magistral dans le n'importe quoi. Donc le trailer est sorti, vous pouvez aller voir ça comme des grands.
Moi, je voulais vous parler de stand-up, pas de stand-up comédienne, mais de stand-up, le morceau, en fait. C'est un morceau qui est issu d'un projet caritatif, en fait, qui réunit Tom Morello de Rage Against the Machine, Shee Diamond, qui est une chanteuse R&B américaine et transgenre, Dan Reynolds, le chanteur de Imagine Dragons, et les Italiens électro de Bloody Beetroots. Et tous ensemble, donc, ils ont composé un morceau inspiré par les protestations en cours aux États-Unis en ce moment par rapport aux injustices, notamment raciales, et notamment de la part de la police. Donc forcément, ça taille dans le gras. Je vous lis un extrait des paroles. C'est « Quand j'appelle la police, est-ce qu'ils vont juste me tuer ? Est-ce qu'ils vont juste te tuer ? Quand j'appelle la police, est-ce qu'ils vont juste me protéger parce que j'ai la peau blanche aussi ?» Donc voilà, c'est... C'est pas très subtil, mais en même temps, c'est bien. Ça, c'est des moments comme ça où il faut donner des coups de pied dans la fourmilière. Et puis, bon, je voulais signaler que ce morceau, en fait, 100% des bénéfices seront distribués entre diverses associations comme la NAACP, donc la National Association for the Advancement of Colored People, ou encore la Southern Poverty Law Center, qui a joué et qui joue encore un rôle important dans la lutte contre les suprémacistes blancs. C'est un bon petit morceau avec une bonne petite patate, un petit mélange un peu étrange entre le métal, en tout cas l'agressivité musicale de Rage Against the Machine et puis les petites touches électro des Bloody Beetroots. Je vous propose d'écouter ça tout de suite, en tout cas un extrait. Stand Up, donc, projet qui réunit Tom Morello, Shee Diamond, Dan Reynolds et Bloody Beetroots. Et avant de passer du côté de la tech, je voulais faire un petit message de service rapide pour signaler que les clairvoyants prennent des vacances. Alors, elles sont un peu forcées parce que pour le moment, avec Covid-19, il n'y a pas beaucoup de news. Donc, on va prendre des vacances jusqu'en septembre. On reviendra à la rentrée avec une émission classique, mais on va sans doute faire une émission spéciale après la SDCC, donc la San Diego Comic-Con, qui cette année a lieu en streaming sur 4 jours, je crois. J'ai plus les dates en tête. Et donc, normalement, on fera cette émission fin juillet. On fera un petit récap s'il y a des actus ou des nouveautés qui sont annoncées du côté de chez Marvel Studios. Et on peut passer maintenant à la tech avec un nouveau codec, le H266.
Ouais, vous connaissez le 264, le 265.
Ouais, j'en ai pas vu beaucoup des 265, cela dit, mais j'étais souvent très très impressionné par le taux de compression est assez hallucinant, en fait.
Bah, c'est une tuerie, et d'ailleurs, c'est ce qui sert de base au format chez Apple, en fait, pour la compression des images, etc. Le HEIF, si je dis pas de bêtises, enfin bon, c'est basé là-dessus. Et la grosse surprise, c'est que moi, j'avais pas du tout suivi les travaux sur le 266.
Non plus.
Mais la bestiole est en développement depuis 3 ans. Il y a quasiment tout le monde qui est impliqué. Donc Sony, Apple, Intel, Huawei, Microsoft, Qualcomm, Ericsson. On est sur un codec, évidemment, qui compresse les images, la vidéo, et qui donne des résultats qui seraient encore 50% inférieurs en taille au 265. Donc ça devient extrêmement intéressant, y compris pour le stockage, par exemple. Hein. Mais ça devient évidemment super intéressant pour avoir une qualité de ouf avec nos smartphones et avec tous les stockages qu'on utilise maintenant qui sont pas forcément... Alors, on n'est pas sur une dynamique de taille qui se réduit, on est d'accord. Hein. Mais on est surtout sur une dynamique de résolution qui augmente et donc qui prend de plus en plus de place. Donc si on a un système de compression qui est de plus en plus intéressant, c'est tant mieux. Donc 50% de mieux par rapport au H265 HEVC, c'est juste énorme. Alors, il va falloir un petit peu attendre, évidemment, pour que ça arrive dans nos logiciels, etc., etc. Mais c'est dispo. Je vous ai linké une news de chez DP Review, qui est un excellent site de review de photos, d'appareils photo, entre autres, avec des reviews de... Les mecs vont tester des choses qui font vraiment mal à la tête. Donc, si vous êtes à fond sur les appareils photos, c'est un site à connaître ou que vous connaissez certainement déjà. Et dans leur news, il y a le communiqué de presse complet pour expliquer tous les avantages de ce codec fait par nos amis de chez Fraunhofer, comme d'habitude, hein, qui met en avant cette compression aussi pour économiser la bande passante au niveau d'Internet, etc., etc. De toute façon, plus c'est petit comme ça et plus c'est intéressant en informatique, c'est comme ça que ça marche. Mais j'ai hâte de voir les mises en application parce que bon, on n'y est pas tout de suite encore, comme je le disais.
Et puis on passe du côté de nos amis d'AMD
qui ont sorti toute leur gamme 3000 XT. Donc tous les Ryzen qu'on connaissait déjà et qui étaient déjà extrêmement intéressants dans la catégorie 3900, 3800, etc. sortent dans des versions XT un petit peu plus onéreuses, mais pas beaucoup, tout va bien. Mais qui ne sont pas là pour vous faire upgrader. Si vous venez d'acheter comme moi un 3900 par exemple, le 3900 XT n'a strictement aucun intérêt en termes de performance, hein. Même les mecs de chez AMD conseillent de ne pas faire des benchmarks les uns contre les autres parce que ça va être compliqué pour voir les nouveautés. C'est juste une amélioration en fait du process de fabrication du 7 nanomètres qui leur a permis d'avoir quelque chose d'encore un petit peu plus efficace, surtout en termes de single thread. En revanche, ils ont dit, si vous voulez faire des tests rigolos, il vous faut juste prendre les derniers nés de chez Monsieur Intel et vous allez voir, vous allez vous marrer. Alors évidemment, les gens de chez Advantech, Impact Hardware, etc., l'ont fait, et effectivement, lol, voilà, je résume, hein. Donc toujours inutile d'essayer d'acheter du Intel en 2020 et certainement en 2021 et après. On est sûr, en tout cas pour les années qui viennent, l'avenir proche, la messe est dite, on est vraiment sur des perfs qui sont assez intéressantes avec un rapport qualité-prix de ouf. Donc vous pouvez aller regarder tout ça, je vous ai linké un papier assez complet chez Impact Hardware qui vous donne pas mal d'infos, mais vous trouverez des tests complets aussi chez Anantech et compagnie, qui sont assez comment dirais-je, assez clairs. Le AMD est vraiment intouchable en ce moment. Donc si vous n'avez pas des budgets de ouf, même un Ryzen, donc qu'on appelle le Ryzen 5 en fait, le 3600, prenez un 3600 XT, ça coûte aux États-Unis, on est sur un tarif affiché en tout cas de $250, et c'est un CPU qui est ultra intéressant. Donc on est sur de quelque chose avec 6 cœurs, 12 threads, c'est la fessée. Et évidemment Intel en fait peut même pas vraiment concourir contre l'offre d'AMD, puisque le 3900 XT c'est 12 cœurs avec 24 threads, mais on n'a pas l'équivalent chez Intel en fait, ça plafonne à 10 dans ces gammes là donc forcément ils se font rouler dessus dès qu'on est sur des applications de 3D, de conception, de vidéo, de streaming, etc. Ils prennent une petite fessée, ce qui est un petit peu logique. Donc voilà, si vous vouliez une nouvelle bécane pour cet été, vous savez quoi acheter.
Et puis on termine cette section tech avec une nouvelle Freebox.
Oui, incroyable. Alors la Freebox Pop qui a été annoncée par Xavier Niel sur scène en personne. Vous savez, ils aiment bien faire ces grands messes maintenant. Chez Orange, ils font pareil. Donc il est censé être une révolution. Alors en fait, la Freebox Pop, c'est un nouveau boîtier à 5 gigasecondes avec une petite partie qui contient un boîtier Android TV qui est vraiment tout petit. On est vraiment sur une box qui est rien à voir avec la Freebox Delta qu'ils avaient sorti avant. On est sur un serveur qui est tout petit, une version serveur qui vraiment est un espèce de palais, parce que les deux sont rondes, et il y en a une petite pour mettre sous la télé, qui doit faire à peu près la taille d'une Apple TV, mais ronde, on est vraiment sur ce genre de taille, et puis la version pour, évidemment, qui va servir pour être connecté sur Internet, qui est vraiment, vraiment pas grosse non plus, évidemment, c'est un peu dans l'air du temps, parce que le but du jeu, c'est faire des boîtes plus petites, consommer moins de matière, consommer moins d'électricité, voilà, il faut décroître, tu vois, on était sur les box un petit peu violente, et puis il y en a encore certains qui ont pas eu le mémo, tu vois, genre Bouygues qui sort des nouvelles box mais qui sont en fait dans une télé. Donc bon, tu changes de box, faut changer de télé. Je te confirme que Xavier Niel, c'est pas apparemment dans la présentation, il a pas hésité pour les tacler là-dessus. L'avantage de cette Freebox Pop par rapport à ce qui existe déjà, c'est qu'effectivement ils ont fait des choix un petit peu intéressants. On est sur du 5 gigas comme je le disais sur la connexion, donc Free a pas de problème pour vous faire, enfin, pour vous transmettre 5 gigas de data vers votre box, et vous allez pouvoir uploader à 700 mégasecondes. Donc quand vous êtes fibré avec accès free, c'est vraiment cool. En revanche, attention, il n'y a pas de port 5 ou 10 gigas sur la box elle-même. Donc en fait, c'est des calculs d'apothicaire pour arriver à ce résultat-là. En fait, il y a un port Ethernet à 2,5 gigas. Il y a deux autres ports qui sont à 1 giga, et en Wi-Fi on peut monter jusqu'à 500 mégabits seconde. Donc on est effectivement à 5 giga quand tu fais l'addition. C'est tout est normal. Le marketing n'a pas menti, mais ils t'ont pas prévenu qu'il fallait tout additionner. On est sur du Wi-Fi 5. On n'est pas sur du Wi-Fi 6 comme chez certains. En revanche, ils ont intégré le WPA 3 et on est sur une offre à 39,99€, donc 40€. Hein, voilà, putain, ça m'énerve ces prix. qui est intéressante. Mais alors Xavier Niel pendant sa présentation disait vous pourrez prendre que ce dont vous avez besoin. Alors c'est vrai, hein, tu peux prendre que le serveur si tu veux, enfin que la box elle-même. T'es pas du tout obligé de prendre la box Android TV ou prendre un autre truc qui est dans la boîte qui est un répéteur Wi-Fi. Si vous avez une baraque, c'est vachement bien puisque ça te permet d'étendre ton signal Wi-Fi sans te prendre la tête. C'est d'une techno mesh en plus, donc c'est vraiment une techno qui est facile à mettre en place et qui marche très bien. Mais tu n'économises pas d'argent sur ton abonnement en fait. Tu paieras la même chose. Tu vas économiser de l'argent uniquement sur ta première facture et c'est genre 10 balles par box. Donc si tu prends pas la télé et le répéteur, tu vas économiser 20 balles sur ta première facture. Super. Alors après, tu peux les commander séparément si finalement tu en as besoin pour 10 balles. Mais de toute façon, l'abonnement ne bouge pas. Ça sera 40 balles, sachant que c'est 30 balles la première année. Ce qui est pas nul. Hein. On est sur des tarifs intéressants.
Ouais,
carrément. Quand même.
Ouais, je te confirme qu'avec la Belgique, il n'y a pas comparaison.
Voilà. Donc nous, on a l'habitude. On est très mal habitué en France. Faut dire ce qui est. Et d'ailleurs, à cause de Free. Hein. Mais on est sur une offre qui du coup est relativement intéressante. La box Android TV, elle est rigolote aussi parce qu'ils ont encore une nouvelle interface qui s'appelle alors OQUE, hein, je vous l'appelle parce que c'est compliqué, une nouvelle télécommande, parce qu'a priori la télécommande tactile de la précédente box n'a pas convaincu grand monde, donc là on se retrouve avec une télécommande assez classique avec des gros boutons. Ça m'a fait marrer parce qu'il y a des gros boutons Netflix, mais il y a aussi un bouton Prime Vidéo maintenant, tu vois, comme quoi, et un gros bouton Free pour aller directement sur l'interface. Sur toutes les fonctionnalités, il n'y a pas tous les détails encore, donc il faudra attendre que quelqu'un ait vraiment testé la chose. On ne sait pas s'il y a des fonctionnalités de NAS, est-ce qu'on peut brancher des disques durs, qu'est-ce qu'il y a de dispo au niveau de l'interface de la POP elle-même. Tout ça reste encore un petit peu flou. On va attendre un petit peu pour avoir plus d'infos. En tout cas, vous savez que c'est sorti, ça a été présenté cette semaine. Moi, personnellement, pour mon prochain déménagement, je sais que ça fera partie des box que je regarderai, parce que pourquoi pas, hein, pourquoi pas revenir chez Free pour Internet, parce que pour le mobile, j'y suis pas. J'ai vraiment trop de mauvaises expériences avec eux sur tout ce qui était mobile. Mais sachez d'ailleurs que Xavier était très content de dire que si vous avez cet abonnement, etc., vous pouvez aussi avoir un abonnement 4G illimité à 10 balles par mois à vie, entre guillemets. Les petits gars de chez Next Impact dont je link le papier sont assez malins de mettre du à vie, entre guillemets, parce que bon, on sait tous ce que vaut le à vie chez les fournisseurs d'accès. C'est à vie du produit, en fait. Hein. C'est pas forcément la tienne. Hein. Donc, il faut bien être clair là-dessus. Mais bon, c'est pareil. Hein. J'attends de voir ce que ça va donner, puisque moi, les connexions chez Monsieur Free, niveau mobile, vraiment, je ne suis pas convaincu. Je suis désolé si vous êtes des fans. Je n'ai eu que des merdes avec eux et je suis toujours revenu chez quelqu'un d'autre, du coup.
Et comme je sens que tu commences à t'énerver, ben on va en profiter et on va passer au rant.
On va me dire, oui, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est honteux, ça. C'est de la merde.
Alors, qui est-ce qui prend cher cette semaine?
Écoute, c'est une ambulance, tu vois. Enfin, normalement, tu tapes pas sur un truc à terre, mais eux, je suis obligé parce que vraiment, ils font trop de bruit par rapport à ce qu'ils devraient faire. Je parle évidemment de les petits cas qui sont en train de nous ressusciter l'Atari VCS. Alors, l'Atari VCS, c'est un produit dont j'avais déjà vaguement parlé, qui est censé être une console rétro qui fait revenir vos souvenirs de l'Atari VCS. Vous savez, cette console avec des gros pixels dégueulasses qui était sorti à la fin des 70, début des années 80 pour nous autres Français, puisque bon, tout le monde l'a pas eu dans les mêmes délais.
Mais ça fait longtemps qu'ils en parlent en plus de cette console, j'ai l'impression que ça a changé de profil en plus en cours de route.
Ah bah oui, c'est un bordel. Alors, parce qu'en fait, c'est un projet qui a été annoncé en 2018. Donc, je te confirme qu'ils sont un petit peu à la bourre. Alors, certains commencent à les appeler le Star Citizen de la console rétro mini.
Carrément.
Pourquoi pas?
La Pourquoi violence. Pas
C'est un peu violent, mais bon, donc on râle hein, souvent sur les consoles mini quand elles sont à plus de 100 balles, etc. Eux, ils annoncent un projet à 400$ pour jouer à des jeux Atari. Alors, je vous calme tout de suite. Cette console est censée être plus un NUC, tu vois, une sorte de mini PC avec un processeur Ryzen intégré, avec un processeur graphique intégré dans la puce, etc.
Ouais, j'ai vu que tu pouvais installer un Windows, voilà. Un Linux.
En fait, le projet est parti dans toutes les directions parce que, en fait, personne en veut.
Oui, c'est ça.
Parce qu'en fait, le projet, tu t'en fous et, arrêtez de me dire que j'ai vu sur internet, oui, mais regarde, pour 400$, peut-être que ça les vaudra parce que, non, mais il y a déjà des trucs qui valent moins cher et qui font mieux et on n'a pas les specs encore. C'est-à-dire qu'ils ont annoncé ce qu'ils voulaient mettre dedans, mais on ne sait pas à quelle cadence, on n'a pas donc les fréquences du processeur, on ne sait pas exactement ce qu'il y aura à l'intérieur de la box, c'est
ça
encore
un peu
très,
le vapeur
très flou.
Tout ça.
Et oui, mais surtout, en fait, que les gens oublient des choses très très vite, hein, je trouve, comme c'est sur internet, on est les rois de l'indignation, tu vois, mais ça s'indigne pas très longtemps généralement. Là, il faut pas oublier qu'on parle d'une boîte qui, n'est qu'une coquille vide qui a eu la chance entre guillemets de mettre la main sur la marque Atari mais qui n'a plus rien à voir avec ce qu'était Atari et en plus le père du projet, un des mecs qui a le plus bossé sur le truc, qui est Rob Wyatt, qui est un des premiers pères de la Xbox chez Microsoft, qui a été un partenaire de plein de projets dans l'industrie du jeu vidéo, bah il s'est barré parce que lui et sa boîte ils ont jamais été payés en fait par Atari et donc ils sont en procès avec eux en fait, et c'est une boîte qui a entourloupé un nombre de gens depuis le début du truc mais incroyable. Et un des maillons majeurs en fait de l'entourloupe, c'est tous les gens qui sont sur de la précommande, du Kickstarter, etc. Pour l'instant, le produit n'existe pas en fait, les gars. C'est-à-dire que si la boîte a disparu avec votre thune, faudra pas venir pleurer. Donc il y a deux choses à retenir, c'est que ce projet, de toute façon, vous pouvez le faire vous-même avec n'importe quel produit un petit peu évolué qui existe aujourd'hui.
Ouais, puis t'installes un émulateur Stella et tu récupères toutes les ROM qui prennent quasi rien en fait. Donc...
Voilà, parce que les mecs, en plus, il y a une espèce d'histoire de service de streaming pour pouvoir jouer à des vieux jeux, etc. Mais putain, mais installez des émulateurs, les mecs. Vous avez Internet, faites un effort. Payez pour ça. Alors qu'on sait tous très bien qu'on est très très fort pour bosser et faire une carte, la mettre dans un Raspberry Pi et puis derrière, on n'y joue pas beaucoup quand même. Hein. Donc, faut être lucide deux minutes sur ce genre de truc. Donc vraiment, le projet, à mon sens, ne mérite de toute façon pas votre argent. Genre, même si le truc sort et même si c'est qualitatif, ça s'est fait sur des montagnes, arnaque après arnaque après arnaque. Faut pas valider ce genre de comportement, point barre. Je vous link une recherche qui vous envoie sur le site de minimachine.net dans le billet qui accompagne le podcast, qui a suivi pas mal les péripéties de ce projet. Vous allez voir, il y a plein de papiers rigolos à aller lire. Mais en tout cas, n'investissez pas le moindre centime sur ce truc, même si vous êtes fan. Alors moi, j'ai vu des gens qui étaient là, genre oui, moi je la veux parce qu'il y a la manette originale de l'Atari 2600.
Qui est une horreur.
qui est une horreur, mais oui, regarde, elle est sans fil. Mais super. super. Enfin, je veux dire, ça reste une manette dégueulasse qui nique les mains. Enfin,
je crois que j'ai jamais pété autant de manettes qu'avec celle-là.
Mais c'est pas ça. Mais moi, elle me pétait la main surtout. Ouais, enfin, tu vois, la manette, à la limite, je m'en fous. Mais si tu fais des parties un peu compliquées sur certains jeux, t'avais juste ultra mal à la main. Enfin, c'est l'antithèse de l'ergonomie, le truc. Donc, il y aura évidemment deux manettes. Il y aura un pad un peu moins pourri qui joue pas sur la nostalgie avec la console. Mais bon, $400 pour tout ça, les gars. Non, n'y allez pas. C'est interdit. Ou ne le dites pas sur le forum parce qu'on sera obligé de se moquer. Je vous préviens.
Et c'est la fin de ce 139e épisode de Torréfaction. Si tout va bien, on se retrouve la semaine prochaine,
non,
vendredi
8h.
Non, on se retrouvera pas.
Parce que la semaine prochaine, tu vois, il y a le 14 juillet. Ensuite, il y a des gens qui posent des ponts. Et ensuite, il y a des gens qui vont être tous en vacances. Et tu sais quoi? J'ai envie d'en faire partie. J'ai envie de savoir. Je me rappelle plus comment ça fait, en fait, tu vois.
Eh ben, écoute, ça m'arrange parce que, du coup, ça va me permettre d'avancer un peu sur le bouquin et c'est pas du luxe en ce moment.
Voilà, fais ça. On va bosser sur les trucs qui sont à la bourre. En plus, il y a Salut Titan, des graphistes que je n'ai pas animés. J'ai pas dit de nom. qui ont dit « Oh là là, ça serait pas mal qu'on bosse un petit peu cet été sur le refresh du site. » Mon ami, il fallait pas m'en parler.
C'est parti.
Parce que là, voilà, j'ai des idées, on est reparti. Donc voilà, on a plein de trucs à faire, mais on va prendre juste une semaine. Après, je dis pas qu'on va être là tout l'été, mais je pense qu'on va un petit peu réduire la voilure, ne serait-ce que parce que l'actualité pendant l'été ralentit souvent. On va pas le faire tout de suite, parce que je vous rappelle qu'il y a des conférences qui sont encore prévues sur ce mois-ci. Entre autres, une conférence le 23 juillet que je ferai certainement sur Twitch en direct, qui sera la conférence dédiée à l'annonce. Et voilà, Microsoft va enfin tout dévoiler sur sa nouvelle Xbox. Donc rien que pour couvrir ce genre de truc, nous serons là en juillet, on sera là aussi en août, mais peut-être pas toutes les semaines, histoire de souffler et terminer tous les trucs qu'on a terminé avant septembre et le deuxième confinement. Non, je rigole, plaisantais. Du calme, tout va bien, ça va bien se passer. Mais voilà, donc je vous préviens, on verra ça un petit peu au jour le jour, ou plutôt à la semaine, ça se dit pas du tout, c'est horrible. Mais on vous tiendra évidemment au courant, mais on a pas mal de choses à se raconter, donc de toute façon on ne disparaîtra pas, c'est évident. Et puis bah, on n'est pas du tout du genre plage pendant un mois avec Fask, donc on n'est pas trop loin de nos micros quoi qu'il arrive.
Voilà, donc rendez-vous dans deux semaines, et puis en attendant je vous rappelle l'existence du Patreon, patreon.com/geekzonefr, si vous voulez nous soutenir et financer les podcasts et le site. Eh bien vous pouvez le faire en vous rendant sur Patreon. Ça nous fait toujours plaisir. Eh bien,
merci.
Dans deux semaines, mon caf.
Exactement. Et bon week-end à tous. Ciao.
Ciao.
Un podcast signé Faskil. Faskil.com.
Salut, c'est Pipo.
Salut, c'est Gotoz.
On vous propose d'embarquer avec nous tous les mois pour écouter de la bonne musique de jeux vidéo.
Du récent ou du rétro, de la console ou du PC.
Tant que ça sonne, ça nous va. Des thématiques, de l'actu, des reprises et des invités. Le tout enrobé d'anecdotes.
Pendant deux heures, on passe la musique de vos jeux préférés.
Et on s'intéresse à ceux qui la font.
Les démons du midi, c'est tous les derniers mercredis du mois sur geekzone.fr.